Alors toi, tu vas être qui? Si elle, elle sera la maman, toi, tu seras quoi? C'était compliqué pour moi d'arriver et puis de dire alors coucou, alors si jamais, vous ne savez pas, mais je suis en couple avec une femme, et elle est enceinte. Je me sentais pas du tout de dire ça. Mais je pense que je craignais au niveau alors déjà de mes supérieurs, je me disais, mais si c'est pas compris, si c'est pas accepté, si tout à coup tout ce que je fais, tout ce que je suis est remis en question, moi je vais pas gérer ça. J'ai besoin d'une certaine stabilité pour pouvoir le gérer.
Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Sabrina, quadragénaire romande, vit en couple avec une femme à Lausanne. Ensemble, elles ont une petite fille, née d'une fécondation in vitro réalisée à Madrid. Au micro de Brise Glace, elle raconte sa joie d'être mère, mais aussi la difficulté à légitimer sa place dans une société qui, à chaque échelon, exige des justifications.
Alors, je m'appelle Sabrina, j'ai la quarantaine toute fraîche. J'ai grandi en ville, dans une petite ville, sur le canton de Vaud. Je suis cadre dans une unité scolaire et professionnelle.
Est-ce que vous pourriez me dire dans quel genre de famille vous avez grandi ?
Dans une famille tout à fait traditionnelle, avec un papa, une maman, puis un frère et une sœur plus petits.
À quel moment est-ce que vous avez commencé à prendre conscience de votre homosexualité ?
La prise de conscience est venue très tard. Mais moi, je pense qu'il y avait déjà un intérêt ou une attirance, déjà très très jeune, autour des 10 ans, avec une admiration de la maîtresse, mais qui était peut-être assez particulière quand même. Et puis ensuite, à l'adolescence, avec des expériences homosexuelles, mais j'étais dans ma tête pas tellement destinée à avoir une vie homosexuelle. La construction de mon identité et de ma sexualité est venue tard, vraiment dans la vingtaine, quoi. Et c'est plutôt en rencontrant ma compagne sur un congrès, en fait, dans un contexte de travail. Je devais avoir la trentaine, donc c'était à peu près 10 ans, où finalement les choses ont complètement changé.
Et vous avez emménagé ensemble ?
Oui, sous forme de colocation, vu que personne ne savait, en tout cas dans notre entourage proche, on a pris un énorme appartement, parce que forcément il fallait 2 chambres séparées. Et puis une fois que les choses étaient dites, on a pu finalement réorganiser l'appartement différemment.
Comment ça a été accepté par vos familles respectives ?
Ça a été bien accepté, avec bien sûr beaucoup d'inquiétudes, des réticences, des questionnements. Alors évidemment, c'était pas juste « ah bah c'est super, et puis on sert le gâteau ». L'annonce a été un événement, un chamboulement, mais néanmoins bien accepté.
Et en dehors du cercle familial ?
Plutôt des très très belles surprises. Je pense avoir beaucoup de chance. J'ai toujours été entourée de personnes, enfin, où je me suis entourée de personnes avec qui il y avait une sincérité dans l'amitié. Moi, j'avais beaucoup de craintes, et c'est sûr. J'avais peur d'être rejetée tout à coup, ou peur d'être jugée. Puis finalement, pas du tout.
Et dans la construction de votre couple, à quel moment est-ce que le projet de peut-être accueillir un enfant arrive sur la table ?
Il est arrivé assez tôt. Avec ce désir qui était présent, et puis en même temps avec une idée un petit peu conceptuelle de comment on allait s'y prendre. Ça a pris passablement de temps pour que l'idée elle mûrisse, pas juste au niveau de comment on fait, mais aussi sur la société. Est-ce que la société est prête à accepter une famille comme la nôtre, comme celle qu'on aurait envie de créer à ce moment-là ? Et puis qu'est-ce qu'on infligerait à des enfants si la société dans laquelle on vit n'est pas prête à ça ?
Est-ce que c'était une évidence de savoir laquelle de vous deux le porterait, cet enfant ?
Non, ça n'a pas été une évidence. On en a discuté et finalement, c'est l'âge. C'était plus urgent pour ma compagne qui avait un âge plus avancé que le mien que moi qui, potentiellement, avais encore la possibilité après de porter. Si on souhaitait avoir un deuxième enfant ou un troisième enfant, selon ce qui se passait.
Parfois, dans ce genre de conversation, il y a un moment un peu clé. Mm-hmm. C'est un peu le moment où on se dit... Bon, ok, on essaye.
Oui, c'est un moment assez rigolo. On rentrait de la plage, c'était 7h du soir, il faisait beau dehors, on était dans le salon, on avait un chat à ce moment-là, on avait un grand, grand canapé, on écoutait de la musique, on discutait comme ça, on buvait une limonade. Tout à coup, on s'est dit, mais on le fait ? Pourquoi pas ? Et puis c'est parti de là. Donc pour moi, en tout cas, l'image, elle est vraiment de ce moment-là, de ces odeurs, de ce jour-là, d'après-plage, où on revient après une belle journée de soleil. Enfin, voilà. Alors il y a eu une première étape d'abord de réflexion, puis en simultané hein, de recherche, quel pays, parce qu'en Suisse, bah, c'est pas permis. Est-ce qu'on choisit un pays? Est-ce que c'est qu'un donneur anonyme? Est-ce qu'on choisit quelqu'un, un ami ou quelqu'un d'autre? On essaie d'imaginer, on discute avec des gens qui ont déjà eu des enfants dans ce type de couple-là. Et puis, on s'est dit, non mais nous, on a envie de faire famille, nous, au fait. On ne veut pas de tierces personnes. Sinon, finalement, notre couple à nous et la famille qu'on a envie de créer ne sera pas celle qu'on a envie de créer. C'est-à-dire qu'une de nous deux bah, sera l'autre. Parce que s'il y avait à ce moment-là un père, ce serait une mère, un père et l'autre. La tata, la toutou. Et nous, on voulait pas de ça. Et puis, dans l'environnement dans lequel je travaille aussi, il y a beaucoup de familles monoparentales. Il y a des familles traditionnelles, il y a des familles recomposées. Enfin, il y a plein de modèles différents de familles. Et toutes ces réflexions-là nous ont permis de construire ce qu'on avait envie. Qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'un enfant, de quoi a besoin un enfant pour son épanouissement, mais aussi pour son évolution? Quels sont les repères? Quelles vont être les questions qui vont arriver s'il n'y a pas de père ou s'il y en a un? Donc ça, c'était la phase, je dirais, de construction. Et puis la phase de recherche qui se faisait en parallèle, c'était dans quel pays?
Parce que légalement, comment vous décririez la situation en Suisse?
Elle est catastrophique. Je vais vous donner un exemple. Concrètement, une femme qui est mariée à un homme, si son mari est stérile, bah, y a un don de sperme qui se fait, l'enfant naît, donc en Suisse, et le père d'adoption est le père, point. On ne se pose pas la question. Ils ont ce droit-là. Donc les couples hétérosexuels mariés peuvent utiliser la PMA. Pour une femme qui vit avec une femme, bah, en Suisse, c'est impossible, c'est illégal, donc ça ne peut pas se faire. Donc il y avait aussi cette frousse, on risque quoi si on le fait quand même? Si on le fait à l'étranger, si on passe avec des médicaments, enfin il y a vraiment ce côté très très illégal comme ça, qui était très inquiétant. Donc en Suisse, la réalité c'est celle-ci. Donc on devait explorer les autres mondes, les autres pays. Je dis les autres mondes, c'est qu'il y a plein de choses à prendre en considération. Dans un autre pays, c'est un autre fonctionnement, c'est d'autres règles, d'autres lois. Enfin, il y a tout ça aussi qui influence. Donc pour moi, je parle d'autres mondes.
Alors, sur quel genre de pays se sont portés vos choix?
Je dirais l'Espagne assez rapidement. La Belgique, pour moi, c'était pas possible d'imaginer un donneur belge. J'ai rien contre les Belges, hein, mais c'était pas possible de par mes origines. J'ai des origines latines. Je me disais, mais c'est un donneur blond, archi-blond, ça va pas, quoi. Donc on est parti sur l'Espagne. Puis l'Espagne, c'est un pays magnifique, en plus. Donc il y avait aussi l'idée de pouvoir aller dans un pays où la culture nous parlait. Alors, nous, on s'est renseignés sur les diverses cliniques espagnoles, de par aussi les informations qu'on avait prises sur Internet, sur les forums, etc. Celle qui nous a parlé le plus se trouvait à Madrid.
Et après, vous avez une sorte de choix pour les donneurs?
Non, pas du tout. On ne choisit pas le donneur. Le donneur est défini par la clinique, mais avec certaines caractéristiques de la femme qui donne ses ovocytes. L'idée, en fait, c'est que l'enfant puisse ressembler le plus possible à sa mère biologique. Donc on ne peut pas imaginer, dire « Ah bah non, mais moi j'aimerais un petit enfant eurasien sur catalogue. » Non, ça, c'est pas possible. Ça, ça se fait pas du tout en Espagne.
Vous vous souvenez de la première fois où vous y êtes allée, dans cette clinique?
Oui. C'est très spécial. Enfin, déjà, toute l'aventure. Hein. La première rencontre via Skype, déjà ça, c'était une aventure.
C'était quoi, là?
Avec des doctoresses. Voilà, on se dit, mais est-ce qu'elles sont vraiment docteurs? Ou est-ce que c'est une arnaque? Enfin, on ne sait pas tellement au départ. Hein. Après, là, ma compagne avait suivi un traitement, donc en Suisse. Et il faut tout à coup aller chercher des médicaments à la pharmacie, ben c'est une ordonnance espagnole, et puis c'est quoi? Et puis, ah ouais, non, alors attendez, je sais pas, je vais voir avec mon collègue, et puis on vous regarde avec des yeux. Vous serez pas remboursé, à toute manière. Oui, non, d'accord, on sait. Mais voilà, avec un regard toujours très très pesant et très jugeant sur quelque chose qui regarde personne, enfin, on fait rien de mal là-dedans.
Et même si ces prises de médication sont ordonnées par des médecins en dehors de Suisse, ça... C'est pas un problème.
Ce qui est interdit en Suisse, c'est le geste. C'est ça qui est interdit au niveau de la loi. Mais la prise de médication, elle n'est pas du tout interdite. Par contre, ce n'est pas remboursé. Selon les médicaments, vous sortez de la pharmacie avec 300, 500 francs de médicaments. Pour une FIV, par exemple, ou pour une insémination, c'est entre 300 et 1000 francs de médicaments. Nous, ce qu'on a fait, c'est que, étant donné aussi le regard pas très agréable de certains pharmaciens, ou la remise en question du processus, on est parti sur la France voisine. Où finalement on s'est retrouvé face à un pharmacien qui avait l'habitude. Il disait, en France c'est interdit, vivement que ça soit ouvert chez nous, etc. etc. Mais voilà, c'était un processus habituel.
Et après, comment ça s'est passé ?
Ensuite, il fallait partir, donc bagages, dans les 36 heures on doit être sur place. Où est-ce qu'on réserve ? Où est-ce qu'on va ? On ne sait pas où c'est exactement.
Pourquoi dans les 36 heures ?
Parce qu'au niveau médical, il y a l'ovulation. C'est à ce moment-là qu'il faut faire l'injection pour qu'ensuite on puisse introduire le sperme du donneur. Enfin, la première fois, c'était une insémination artificielle. Donc ça prend du temps, mais c'est 36 heures bloc, quoi. Vous partez dans 36 heures, à telle heure, on va faire le geste. Alors on le sait quelques jours avant sur le à peu près quand. Mais après, ça peut être 2 jours de différence. Donc on ne peut pas prendre les billets d'avion avant. Donc il faut partir. Tout le trajet, on avait du matériel avec nous. On se disait à la douane, mais on va se faire arrêter. Si on se fait arrêter, on dit que c'est quoi la seringue ?
Alors, ça, c'est pour les injections d'hormones.
Voilà, oui. On passe dans le sac à main, parce que selon le produit que vous avez, il doit être au frigo. Donc avec votre mini-frigo, vous passez à la douane. Donc si vous devez avoir les choses au frais, donc vous allez devoir avoir des plaques de glace, des choses comme ça. Donc il fallait demander une ordonnance spéciale. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Donc vous arrivez à la douane, vous ouvrez votre sac, vous dites, j'ai ça avec moi. Puis ça passe. Mais c'est plutôt le flip qui prend des mesures hallucinantes. Donc, on arrive à Madrid. Enfin, on était dans un super hôtel, quartier des affaires. Et puis, le lendemain matin, il fallait être à la clinique. Donc, on a pris un taxi. C'était le matin très tôt. On arrive dans cette ruelle. Il y avait juste un café qui servait des churros. Là, il y avait deux messieurs qui étaient en train de boire leur café. Et puis, on se dit, mais en fait, ce quartier, il n'y a rien, quoi. C'est où, cette clinique, quoi ? Puis, on voit un petit panneau blanc, très discret. On se dit, mais c'est bizarre. On est où ? Donc, on sonne à la porte. Et puis, à l'intérieur, tout est blanc, tout est moderne, tout est très épuré, avec une énergie super positive. Mais d'extérieur, alors, par contre, on ne reconnaît pas. Si on ne sait pas qu'on doit aller là-bas, on ne la voit pas. Ce n'est pas très visible. Donc voilà, on arrive sur place, on donne nos noms, on s'assied, on attend. Et puis finalement, tout se fait très, très vite, très, très simplement, avec du personnel très, très qualifié, des gens qui sont engagés, où on se sent finalement reconnu dans qui on est, accepté dans notre projet, et non pas jugé comme ça pourrait l'être ici.
Elle est dans quel état d'esprit, votre compagne ?
En fait, la première fois, on disait, mais où est-ce qu'on va tomber ? Est-ce que c'est une vraie clinique ? Est-ce que c'est des vrais médecins ? Est-ce qu'elle ne va pas faire une infection parce qu'ils auront du matériel pourri ? Enfin, c'était ça, nos craintes, elles se situaient à ce niveau-là, avec beaucoup de colère vis-à-vis de la Suisse, qui nous obligeait à vivre ça comme ça, parce que on n'avait pas la possibilité de le faire en Suisse.
Est-ce que ça a fonctionné, cette insémination, ce geste ?
Non, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de réussite. Donc ça n'a pas fonctionné. Ensuite, on a fait une FIV. Et puis là, ça a fonctionné.
Donc la FIV, la fécondation in vitro, ça requiert quel genre d'opération pour la personne qui l'a subi ?
Au préalable, une ponction des ovocytes. On retire ces ovocytes, on joint les spermatozoïdes. Et se créent alors des blastocytes, on appelle ça. Mais il y en a qui tiennent, il y en a qui ne tiennent pas, qui évoluent ou pas. Et puis, on réintroduit un blastocyte à J5. Donc ça demande 2 interventions.
Vous êtes retourné à Madrid.
Retourné. Et puis alors la FIV, par contre, c'est pas juste un week-end et puis zou, c'est fait, quoi. Ça demande beaucoup plus de temps, donc il a fallu planifier. Ça demande aussi un traitement beaucoup plus conséquent. Ça fait beaucoup de choses à gérer avec les trajets, les voyages, les médicaments à aller chercher en France parce que ici c'est compliqué, les rendez-vous chez le médecin pour faire des contrôles avec une prise de sang pour voir si ça a tenu ou pas.
Médecin suisse, du coup ?
Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, comme c'est que le geste qui est illégal en Suisse, tout le reste, le médecin n'était pas en train d'enfreindre quelque chose, oui. Ou il était à l'aise avec le fait d'effectuer les contrôles. Donc, suite à la prise de sang, on apprend que ça a fonctionné. Alors après, avec le premier contrôle, on voit le cœur battre, enfin le rythme cardiaque, c'est pas encore vraiment le cœur, qui est juste impressionnant. Tout à coup, il y a vraiment quelque chose. Tout ça, on l'a pas fait pour rien. On a réussi, on est allé jusqu'au bout et ça a fonctionné. On était super contente, avec encore beaucoup d'inquiétudes, mais on a bien fêté ça. Et puis ensuite, on a attendu quelques mois avant de l'annoncer aux gens proches. Puis là, alors, il y a eu plusieurs fêtes, je dirais, qui se sont répétées.
Et là encore, des réactions plutôt bienveillantes.
Plutôt bienveillantes, oui. Je dirais au niveau de ma famille, passablement de questions sur « Mais alors toi, tu vas être qui ?» Si elle, elle sera la maman, toi, tu seras quoi ? Bah, la maman. Oui, mais on a une maman. Oui, non ? Ou alors on peut avoir deux mamans. Ah, donc il y avait tout ça aussi à déconstruire, parce que finalement c'est une construction sociale aussi. Donc au niveau de ma famille, il y a eu ce travail qui s'est fait avec ma famille, mais où chaque membre de ma famille, en tout cas ceux qui avaient besoin de réponses, ont dû faire un travail sur eux d'appréciation de la situation.
Et au travail ?
Alors au travail, à ce moment-là, c'était un peu compliqué de dire quoi que ce soit. Comme je disais tout à l'heure, cadre dans un lieu où on travaille avec des employés, donc on ne partage pas des informations de ce type-là avec des employés. C'était compliqué pour moi d'arriver et de dire « alors coucou, alors si jamais, vous ne savez pas, mais je suis en couple avec une femme, et elle est enceinte ». Je ne me sentais pas du tout de dire ça à ce moment-là. Mais je pense que je craignais au niveau de mes supérieurs. Je me disais « mais si ce n'est pas compris, si ce n'est pas accepté, si... tout à coup, tout ce que je fais, tout ce que je suis est remis en question. Moi, je ne vais pas gérer ça. J'ai besoin d'une certaine stabilité pour pouvoir le gérer. » Donc, la grossesse de ma compagne, la naissance même de notre enfant, c'est comme si moi, au niveau du travail, je n'avais rien vécu. Il ne se passait rien. Je n'avais pas eu d'enfant, ma compagne n'avait pas été enceinte, enfin voilà, parce que je n'avais rien dit. Et puis pour moi, ça devenait insupportable. Je disais, mais mon enfant, j'ai envie de le faire vivre. Il vit dans ma vie, donc il fait partie de ma vie. Donc finalement, j'ai dit les choses. Je me suis approchée de la personne de qui j'étais le plus proche au niveau des collaborateurs. Je lui ai dit, je suis maman. Ah bon ? Mais comment ça ? Au fait, oui, je suis maman. Ma compagne a accouché il y a un mois, et puis voilà. La personne, je dirais, est restée en silence un long moment. Je voyais ses yeux qui essayaient de faire des connexions et puis qui n'arrivaient pas à faire des connexions. Il m'a dit « Ah, mais alors, je ne pensais pas du tout ça. » Et puis après, les choses, elles se sont dites comme ça, où certains collègues ont eu l'information par d'autres collègues. Et puis les choses, elles ont été reçues, je dirais. Boum, comme un paquet, où chacun y a mis sa couleur. « Ah, j'imaginais pas ça. Ah, je pensais que t'étais en couple avec un homme. Ah, je pensais que t'étais une célibataire aigrie. Ah, bon, sympa. Enfin, » des choses comme ça, c'était assez rigolo.
Est-ce qu'il y a des remarques qui vous ont blessé ?
Non, aucune. Ça avait même plus d'importance, le regard des autres. Ils pouvaient penser ce qu'ils voulaient, ça allait rien changer. Ouais. Alors, j'ai pris des vacances. J'ai pris un jour et l'accouchement. La loi suisse, elle dit « c'est un jour ».
Les couples hétéros chez vous ont un jour ?
Ils ont 5 jours.
Et vous n'avez pas essayé de...
Non, parce qu'un bout, c'était de ma responsabilité de ne pas l'avoir dit avant. J'ai accepté la donne comme ça et puis j'ai fait avec. Mmh. Mais bien sûr qu'il y avait une injustice. Évidemment, tout le système fait que la situation était injuste. Et puis le fait de se dire « j'aurais dû négocier », déjà ça, rien que ça, moi, ça m'énerve. Pourquoi je devrais négocier ?
À la maternité, ça s'est passé comment ?
Ça s'est très bien passé. Vraiment, où j'ai pu faire les premiers soins. C'était génial, quoi, ces premiers moments. Puis vraiment, on se rend compte que les gens, en nous voyant fonctionner, les jugements qu'on peut avoir quand on a peur de l'inconnu, ça passe.
Et légalement, quand vous annoncez la naissance d'un enfant, comment vous faites, vous ?
Alors, moi, je fais rien. Moi, je sers à rien. Que je sois là ou pas, ça change rien. C'est-à-dire qu'à la maternité, on pose la question, il y a un père, il n'y a pas de père, non, c'est un donneur anonyme, ok, puis hop, ils mettent une petite croix. Mais moi, qui suis à côté, je peux être la cousine qui est venue rendre visite et puis qui est là, quoi. Enfin, au niveau légal, il n'y a rien. Et puis la procédure d'adoption et de reconnaissance de qui je suis dans mon rôle de mère, qu'une année après la naissance. Pour moi, ça a été très, très compliqué. de gérer ça, avec cette crainte de me retrouver avec mon enfant et puis de devoir, je ne sais pas, passer la douane ou je dis n'importe quoi, ou devoir aller à l'hôpital. Ah oui, bon, la mère n'est pas là, il faut que la mère soit présente, mais je suis l'autre. Et encore peut-être dans les services hospitaliers, ils pourraient le comprendre. Mais selon ce que l'enfant vit, bah, il faut la signature du parent, légale.
Quand l'année passe et que la procédure peut commencer, on vous demande quoi ?
Alors, on nous demande tout un tas de papiers. on nous demande si on a des dettes. On nous demande notre situation, on nous demande notre casier judiciaire, enfin, tout un tas de paperasses avec un document qu'on doit fournir où ma compagne écrit en disant « j'aimerais que la deuxième maman soit considérée légalement et puisse être reconnue comme maman, etc. » Et ça prend du temps. Hein. Nous, ça a pris 2 ans et demi. Et d'être dans l'attente, enfin, d'arriver chez soi, d'ouvrir le courrier et puis de dire « ah mais non, il n'y a toujours rien dans la boîte aux lettres », puis de dire « mais ça va prendre combien de temps encore ?»« Il y a encore ça à faire, il y a encore ça à faire, il y a encore ça à faire, il y a encore une enquête qui doit se faire sur nous, sur moi en l'occurrence. »
C'est quoi l'enquête ?
Il y a une première rencontre qui se fait au service de protection de la jeunesse, avec tout un tas de questions qui se font autant pour ma compagne que pour moi, sur notre parcours de vie, sur le processus de réalisation finalement de la famille. Pourquoi vous avez voulu faire un enfant, etc. etc. Enfin, toutes ces questions-là, qui sont des questions très très intimes. L'accouchement, vous y étiez ou pas, enfin toutes ces questions. Enfin. Et puis ensuite, une rencontre qui se fait à domicile. Alors, moi, j'ai pas de souci à ce qu'on vienne chez moi, hein, mais là, on vient chez vous avec un regard qui se pose, c'est un regard de jugement. On doit venir juger si cette femme est apte à être mère de cet enfant. Mais moi, c'est mon enfant depuis le départ. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, bah, ça demande beaucoup de self-control. Alors, j'ai une question que j'ai toujours pas compris, d'ailleurs. Vous êtes propriétaire ou locataire ? Qu'est-ce que ça change si je suis locataire ou si je suis propriétaire ? Je ne sais pas. Ou une question de quelle est la répartition des tâches ? Ah, je ne sais pas. Il y a Polo qui plante les clous et puis l'autre qui fait la cuisine. Et puis il y en a un qui se déguise en homme et puis l'autre qui... Enfin c'est quoi ces questions ? On n'est plus dans cette société-là, quoi. La répartition des tâches n'est pas genrée. C'est la seule réponse que je vais vous donner.
C'est ce que vous lui avez dit ?
Oui. Les questions sont très, très mal orientées. Les personnes qui doivent faire ça, elles le disent elles-mêmes, elles le font, la procédure, elle est comme ça, elles doivent poser ces questions-là. C'est pas tout à fait adéquat, mais c'est quand même un avancement, parce qu'avant, il n'y avait rien. Donc, un bout, on est obligé de faire avec aussi, parce que ce qui est important à ce moment-là, c'est la finalité. Donc, on se dit, OK, bon, bah, je prends sur moi, et puis moi, ce que je veux surtout, c'est ça, au bout, donc j'accepte, quoi.
Quand cette personne est là, c'était une femme, j'imagine ?
C'était une femme.
Vous étiez avec votre enfant ?
Oui. Je pense qu'elle observait le lien, elle observait l'adéquation du contact, elle observait peut-être la dynamique de couple ou la dynamique parentale. Je ne sais pas, j'imagine que c'est ça. Alors, ça devrait durer à peu près 20 minutes, selon. Nous, c'était une expérience un peu plus longue. Ça varie, je dirais, mais... Moi, on remet en question depuis le départ le fait que je sois la mère.
Pour le même cas de figure entre un homme et une femme, qu'est-ce qui diffère ?
Dans une procédure d'adoption pour des couples hétéros, c'est de toute façon très très dur. On vient fouiller dans votre vie, on vient voir où est la faille. Ça, c'est aussi pour les couples hétéros, sauf que nous, on n'est pas dans ce cas de figure. On parle de processus d'adoption, mais moi, je ne m'y reconnais pas là-dedans. Légalement, j'ai adopté ma fille, mais moi, c'est ma fille depuis qu'elle est dans le ventre. Je n'ai pas engagé, un processus d'adoption. Je ne suis pas allée chercher un enfant dans un lieu. Je n'ai pas adopté un enfant comme ça.
Non, ce qui pourrait être comparable, ce serait un homme stérile, une femme fertile.
Voilà.
Et le processus de reconnaissance légale de cet homme en tant que père.
Mais sauf que ça, ce n'est pas très compliqué, ça. Un homme stérile, ou même une femme stérile à qui on donne des ovocytes, bah, elle met au monde l'enfant, c'est la mère.
Et je me demandais si une femme seule qui se faisait inséminer avait le devoir de déclarer quelque chose différemment aux autorités.
À ce moment-là, elle déclarerait donneur anonyme, pas de père. Il faut pouvoir le prouver, selon les cantons, il faut pouvoir le prouver. Mais voilà, ça s'arrête là. Donc finalement, dans ce cas de figure-là, une femme qui fait un enfant toute seule, qui ensuite rencontre quelqu'un, 2-3 ans après, qui devient son conjoint. Bah, la procédure est la même. Hein. Donc le conjoint demande à adopter cet enfant, c'est la même chose que dans mon cas, alors que l'origine du projet n'est pas la même.
Aujourd'hui, votre enfant a quel âge ?
Elle a 3 ans.
Il y a toute cette idée que quand même, il faut un père, une figure masculine pour se construire. On vous a parlé de ça ou pas
bien,
du tout ?
Bien sûr, c'était les questions du service de protection de la jeunesse. Finalement, est-ce qu'il y a des figures masculines ? Alors, moi, je suis d'avis qu'un enfant a besoin de figures importantes dans sa vie, qui soient différenciées, mais pas forcément d'une figure paternelle de père, une figure masculine, des figures masculines, des figures féminines. Oui, ça, c'est important pour un enfant dans son équilibre, ça, c'est sûr. Maintenant, elles ne sont pas forcément au niveau du couple parental. D'ailleurs, on le perçoit dans d'autres sociétés, les enfants ne sont pas forcément élevés par des couples hétéros. Ils sont élevés par des femmes ou ils sont élevés par des sociétés où finalement il y a X hommes, il y a X femmes et il y a la mère qui donne le sein, la mère nourricière. Et puis le reste, ils sont tous papa, elles sont toutes maman. Et au niveau de nos amis, mais aussi au niveau de la famille, il y a des hommes, il y a des femmes. Ils font partie du tableau depuis le départ. Même avant que notre enfant soit là, il faisait partie de qui on est. Un enfant va aller là où il a besoin. Il va être attiré à certains moments plus par l'oncle X ou son parrain ou cette tata. Puis ça, c'est indépendamment du genre.
Et pour ce qui est du donneur anonyme, est-ce qu'il y a eu parfois le doute de est-ce qu'on devrait peut-être un jour donner l'opportunité à cet enfant de le rencontrer ?
Quand on parle de don, on parle de don d'organes. Est-ce qu'on va rechercher telle personne qui nous a donné son poumon ? Je ne sais pas. Bah, c'est un petit peu la même idée. Ces messieurs ou ces femmes qui font don d'ovocytes ou qui font don de sperme font des dons.
Ils sont rémunérés pour ça ?
Ils sont rémunérés pour ça. Ils le font pour x, y raisons, mais en aucun cas, ils le font pour pouvoir être reconnus à un moment donné comme père ou comme mère. Sinon, ils ne le feraient pas comme don anonyme. Donc, père, le mot père, dans ce cas de figure-là, il n'y a pas de père. Ce n'est pas un géniteur, c'est un donneur. Après, il y aura probablement des questions. Notre enfant nous dira pourquoi certains ont un papa, une maman, d'autres ont qu'une maman. Pourquoi moi j'ai 2 mamans, pourquoi j'ai pas de papa, bien sûr. On va devoir y répondre en adaptant aussi la réponse en fonction de l'âge. Je pense qu'à l'adolescence, il y aura des questions, bien sûr, parce qu'à l'adolescence, c'est probablement une période de sa vie où on a besoin de réponses sur passablement de choses aussi par rapport à l'histoire de nos propres parents. Et peut-être qu'à ce moment-là, notre enfant nous dira « j'aurais voulu à cause de toi ». Mais évidemment. Mais dans d'autres cas, dans une autre situation, ça aurait été pour d'autres choses.
Je me demandais si y avait des anecdotes ou des histoires qui montrent aussi l'absurdité parfois du système. Enfin, moi, je me souviens par exemple que quand j'étais à l'école, il y avait vraiment profession du père, profession de la mère.
Ah oui, oui, oui. Alors, les documents administratifs, par exemple, mais ça fait partie des choses moi qui m'énervent profondément. Je me dis, qu'est-ce qui est compliqué au niveau des administrations de mettre un slash et de changer la terminologie ? C'est quand même dingue. On doit remplir des documents, c'est écrit père-mère. Alors, je biffe le père, ou elle biffe le père, et puis on note deuxième mère. C'est pas compliqué de mettre parent 1, parent 2, ou. Enfin voilà, de laisser des possibilités ouvertes. Étant donné que la loi l'est passée, il faut aussi que les choses elles, soient adaptées. Et ça, ça fait partie du quotidien. Si on doit répondre à des documents, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou. On va chez le médecin, et puis on doit remplir documents. Oui, alors, en effet, profession. Du père, alors il n'y a pas de père, mais vous n'êtes pas de... Oui, 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 mais vous ne m'avez pas parlé de... Oui, de ma conjointe. Ah, conjointe, ah. Ah, mais je ne sais pas comment je vais rentrer ça dans le fichier. Bah, c'est pas compliqué, la même chose. Ouais, mais alors au niveau informatique, il faut que je demande à ma collègue, je ne suis pas sûre que je puisse... Mais alors c'est qui, c'est à qui qu'il faut envoyer du coup les emails ? À quelle mère du coup ? Parce que si c'était un homme, vous enverriez le document à qui ? Ah bah la mère. Ah ouais, bah ça pose une autre question, là. Donc il y a des choses comme ça, en effet. Et puis, je dirais au niveau peut-être des choses assez rigolotes, ça me fait sourire comme ça, mais on a autour de nous beaucoup de couples qui ont des enfants, des couples hétéros, où, dans les discussions que moi j'ai avec mes amis, ils me disent « Mais vous avez tellement de chance d'être deux femmes, vous ne vous rendez pas compte. » Alors, moi, je pose la question, ça veut dire quoi? Je dis ça par rapport à quoi? Je dis « Ouais, mais bon, vous ne vous rendez pas compte, quoi. Il ne fait rien, il ne comprend rien, je dois tout lui dire, c'est tout moi qui fais. » Ou j'entends des phrases comme ça « Ouais, mais bon, vous êtes deux femmes, c'est évident. » Oui, on a l'instinct maternel. Non, mais « Ah bon, l'instinct maternel, ça existe ?» Il y a des femmes qui n'ont pas l'instinct maternel, qui n'ont pas ça. Alors, de quoi on parle? Finalement, le fait d'avoir, moi, eu cette place qui est différente, que moi, je n'ai pas porté mon enfant, me laisse supposer aussi que parfois, on leur donne peu de place à ces hommes, à ces pères. Cette situation me fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui sont construites, mais que les gens n'identifient pas comme étant une dimension construite. Elle fait partie de leur fonctionnement. Au même titre que ce que j'ai dit tout à l'heure, quand cette infirmière a dit « Mais non, bah, si c'était un couple hétéro, j'enverrais à la femme. » Mais il n'est pas forcément bobet, le père, quoi. Il peut lire les mails, il peut aussi traiter l'information, c'est peut-être lui qui s'occupe de tout ça.
Compte tenu de ce qui se passe en ce moment, des débats liés à la PMA, quel regard vous portez sur les années qui viennent?
Je pense que la société évolue, que les gens évoluent, que ces familles comme ma famille existent déjà, et on est plus nombreux que ce qu'on peut imaginer. Et puis j'ai espoir que les choses, elles changent pour le bien des familles, pour le bien des enfants. Parce qu'un enfant qui a deux parents au départ doit pouvoir avoir ses deux parents reconnus depuis le départ, doit pouvoir être protégé depuis le départ. Et ce n'est pas quelque chose qui doit être remis en question après une année de vie. Enfin, ça n'a pas de sens, ça c'est une chose. Et puis au niveau de la PMA, en espérant que le mariage pour tous va passer, j'ai envie de croire que l'accès à la PMA sera aussi de la partie, au même titre que ça l'est pour les couples mariés hétéros, qu'il n'y ait pas une discrimination qui se fasse à ce niveau-là. Ça n'aurait aucun sens.
Qu'est-ce que vous diriez à Sabrina à l'époque où elle n'osait pas vraiment dire à ses collègues « Ben voilà, en fait, j'ai un enfant, mais je ne peux pas le dire parce que je n'ose pas me confronter aux réactions qui pourraient en découler. »
Je dirais « Mais vis ta vie. Tu sais, les gens, ils s'en foutent de la vie des autres. Ils sont centrés sur leur propre vie. Et puis, les questions qu'ils auraient, t'as les réponses. Ils sont remplis d'amour. »
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!